Est-ce que vous avez des questions à poser à Sébastien?
C'est pas de première question, on peut passer tout de suite à la seconde pour gagner du temps. Question, pas de question.
Pas de remarques?
Pourquoi c'est totalement irréversible?
Avant de poser la question, commencez par donner votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance, votre numéro d'INSEE, naturellement. Je ne suis pas voyant extra-lucide, je ne suis qu'un pauvre juriste sans imagination. J'espère que ce n'est pas que c'est réversible. Mais l'expérience de juriste me prouve qu'une loi, une fois qu'elle a été intégrée dans le droit positif, c'est extrêmement difficile de l'en faire retirer. On a par exemple, je vous parlais de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, elle a été complétée par exemple en 1942 par le régime de Vichy. On a rendu responsable, la loi de 1881 rendait responsable l'éditeur, l'auteur, en gros. Et puis la loi de 1982, de 1942, la loi Vichy de 1942, est venue intégrer un certain nombre d'autres responsables, par exemple le diffuseur. Tout simplement parce que les autorités vichistes et les autorités nazies voulaient pouvoir poursuivre et condamner les petits vendeurs à la sauvette. Seulement le diffuseur, c'est-à-dire que le bureau de tabac du coin, si un journal publie quelque chose me concernant qui ne me plaît pas, je peux faire poursuivre et condamner le buraliste d'à côté de chez moi. Depuis 1942, cette loi existe toujours. Alors vous allez me dire, elle n'est pas appliquée. Mais elle est applicable. Attention, en tant que citoyen, n'oubliez jamais que le droit est quelque chose de trop sérieux pour le confier au seul juriste. Ce n'est pas parce qu'une loi n'est pas appliquée qu'elle n'est pas applicable. C'est vrai, des lois non appliquées, je pourrais vous en citer, je vous cite celle de 1942, mais je pourrais vous en citer des dizaines. Mais il y a d'ores et déjà dans le droit français tout ce qu'il faut pour transformer la France en quelque chose à côté de quoi l'Allemagne nazie n'aurait rien à envier. Sans oublier d'ailleurs, critique du juriste et du droit en général, que l'Allemagne nazie était sans doute, d'un point de vue juridique, une perfection. C'est-à-dire que juridiquement, je ne vais pas repartir dans une démonstration différente, mais enfin pour revenir à votre question dans laquelle je suis en train de m'évader, c'est que, attention, j'espère que les choses sont réversibles. Hélas, je ne suis pas persuadé d'en être. Je n'en suis pas persuadé.
En fait, c'est une série de remarques par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que, ce que je précise, c'est qu'avec Sébastien, on se connaît depuis longtemps et qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre. Moi, je suis plus dans l'opérationnel. Mais par rapport à deux choses que tu as dites et qui me semblent importantes de préciser, par rapport à ce que tu disais sur les DRM, sur le fait qu'un certain nombre de supports étaient limités. Bon, ça, c'est la dimension juridique que tu as expliquée, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour quelqu'un? Ça veut dire simplement que quelqu'un qui va, disons, à la Fnac ou à Virgin acheter un CD, avec ces systèmes-là de limitation d'utilisation, je vais pouvoir écouter mon CD acheté légalement sur ma chaîne stéréo, que je prends ce même CD et que je veux l'écouter dans mon autoradio de ma voiture, ou l'écouter sur mon ordinateur et que je pourrais pas. Donc, c'est-à-dire que ces limitations techniques ont des limitations d'usage dans un cadre légal. Et ça, je crois que c'est important, enfin, de sortir de la question purement juridique, comme tu l'as fait, pour voir qu'est-ce que concrètement ça veut dire. De la même façon, quand tu parles de la riposte graduée dans le cas d'Hadopi, etc., effectivement, ce qui est prévu, c'est que les gens soient avertis de l'utilisation illégales qui font de leur connexion Internet, mais il y a quand même un élément essentiel et scandaleux que tu as oublié de préciser, c'est que on te coupe ta connexion Internet, mais tu continues à payer.
Et pourquoi?
pourquoi est-ce qu'on continue à payer? Parce que, autrement, les fournisseurs d'accès à Internet, les intermédiaires techniques, disaient, oui, mais si vous coupez, notre chiffre d'affaires va diminuer. Et pour les faire accepter ce genre de choses, parce que c'est vrai que depuis 15 ans, les intermédiaires techniques à l'échelon mondial luttaient plutôt du côté des usagers parce qu'on avait plus de points communs qu'avec la répression, qu'elle soit policière ou l'industrie culturelle. Mais à partir du moment où on permet, où on oblige l'abonné à continuer de payer son abonnement, une fois de plus, là aussi, c'est une double peine. Et c'est une sorte de façon de faire passer la pilule auprès des intermédiaires techniques. Autre exemple au sujet des DRM, si j'achète une musique avec mon téléphone portable, je le fais tomber, je le casse, je rachète le même, je ne peux plus écouter ma musique. C'est-à-dire que ce que nous prépare l'industrie culturelle, c'est en gros l'obligation de racheter sa bibliothèque à chaque fois qu'on change de paire de lunettes.
Simplement pour une demande de confirmation, j'ai entendu dire que Gmail, la messagerie de Google, scannait l'ensemble de ce qui était envoyé, reçu, et je voulais savoir si c'était vrai et si d'autres serveurs d'accès, enfin si d'autres messageries faisaient ce type de choses et comment c'est justifiable.
Alors, d'un point de vue capitalistique, c'est parfaitement justifiable, hein, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a l'industrie en face, Noël, c'est le 25 décembre. C'est-à-dire que le gratuit, il y a forcément un coût quelque part. Quand je donne à manger à mes chats sur ces nappes très pratiques que l'on distribue tous les matins en détruisant les forêts d'Amazonie dans ma boîte à lettres, à savoir les prospectus, c'est vrai que la nappe est gratuite pour moi. Mais quand je vais dans le supermarché qui l'a fait distribuer dans ma boîte à lettres, là, en revanche, je le paye différemment. Donc pourquoi est-ce que Google, si gentiment, nous donne des gigaoctets de mémoire vive sur ses ordinateurs pour qu'on utilise nos mails? Tout simplement parce qu'ils y ont un intérêt financier. Lequel? Celui de ce qu'on appelle du, je ne trouve pas l'expression en français, du data mining, l'exploitation des données personnelles. Alors, Google le reconnaît parfaitement, c'est-à-dire qu'il dresse un profil consommateur ou un profil plus que consommateur, c'est-à-dire le profil, d'après leurs algorithmes, de vos centres d'intérêt. C'est-à-dire, il y a des ordinateurs qui scannent automatiquement les mots que vous utilisez et selon que vous utilisez plus ou moins telle expression, eh bien, ils vont ensuite pouvoir vendre les données personnelles vous concernant à des gens pour pouvoir pour que ces gens-là puissent les utiliser. J'ai entendu dire, j'ai pas de chiffre très précis, mais par exemple, vous avez entendu parler de ce bug qui a permis à certaines personnes d'avoir accès aux informations concernant les utilisateurs du site SNCF, Voyage SNCF. D'après ce que j'ai entendu dire, une fiche client est vendable entre 10 et 15 euros. Je ne sais plus combien il y avait de clients dans cette base de données, mais vous multipliez. Voici, je crois, hélas, une des explications, une des réponses à votre question.
À propos de Google, j'ai peut-être. Déjà, l'idée, c'est que cette légende urbaine, bon, qui n'en est pas une, mais qui ressemble à une légende urbaine, si on se dit effectivement, Google, qu'est-ce que Google irait faire à scanner tous les mails de ses utilisateurs? Vous avez tous dans votre relation quelqu'un qui a Gmail. Il faut faire l'expérience, effectivement. Vous envoyez un mail à n'importe qui et vous mettez dans votre sujet voiture d'occasion, par exemple, ou fleurs en ligne, cadeau, Noël. Envoyez ce mail, rechargez votre page et vous verrez justement qu'est-ce qui s'affiche comme publicité qui est à côté à droite. C'est surprenant. Alors maintenant, l'idée, c'est de dire effectivement, oui, mais ça ne touche que ceux qui ont un compte Gmail. Alors, donc Google, en fait, officiellement, Google ne scanne que les sujets des articles. Hein, et je ne sais pas si légalement, ils ont le droit de le déclarer.
Aux États-Unis, oui, ils peuvent le faire.
Apparemment, ça peut être aussi, ils peuvent avoir une disposition légale qui dit qu'ils scannent le contenu des messages, mais sans le stocker, et donc en utilisant uniquement un algorithme qui va récupérer des infos pertinentes. Ça, je pense qu'ils peuvent arriver à magouiller pour que légalement ce soit possible. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que comme quasiment dans chaque cercle amical ou professionnel, on a chacun quelqu'un qui a une messagerie Google. Tout le monde utilise, je crois, les mailing lists, par exemple. C'est-à-dire un robot qui vous envoie un message à un robot qui le renvoie à tous les abonnés de la liste en question. Donc ça veut dire que vous-même qui n'êtes pas chez Gmail, quand vous discutez avec ce type d'outils distribués, vous êtes toujours vous discutez toujours avec quelqu'un qui a un compte Gmail, et donc Google va forcément un jour ou l'autre scanner votre propre courrier, c'est-à-dire celui que vous avez envoyé à la liste et qui est lu par les utilisateurs Google. Donc c'est quelque part, ça touche tout le monde, voyez. Même si l'utilisateur en question, c'est lui qui est le premier visé, mais on est tous quelque part potentiellement atteint par ça, quoi. Donc je pense que après on va dire effectivement, mais n'utilisez pas Google. Mais malheureusement, les autres le font aussi, quoi, ou le feront. Vous voyez, Google aujourd'hui le fait et le numéro un mondial parce qu'il l'a fait en premier, parce qu'il a une base de données énorme, notamment sur ce qu'ils appellent AdWords, donc ces fameux mots-clés qui sont matchés en permanence pour pouvoir afficher des publicités ciblées. Donc il ne faut pas perdre de vue que certes c'est une initiative commerciale, c'est-à-dire que c'est pour afficher des pubs, bon, ça tue personne, hein, donc c'est toujours l'argument qu'on nous balance en disant mais c'est pas grave, c'est juste de la publicité, quoi. Mm-hmm. Mais en même temps, légalement, il y a quand même une appropriation de données personnelles, et nous au Big Brother Awards on le dit souvent, mais c'est vrai qu'il faut pas perdre de vue, et c'est ce qui peut-être amènera les gens à réagir individuellement face à ces dérives, c'est qu'une donnée personnelle, c'est une partie de vous, quoi. C'est-à-dire, porter atteinte à une donnée personnelle, même si elle est numérique, c'est porter atteinte à notre intégrité physique intérieure. Il faut arriver à prendre conscience de ça. Aujourd'hui, c'est que de la pub, mais un jour, ce sera autre chose. Vous voyez ? Donc, effectivement, ce n'est pas une légende urbaine, mais à chaque fois, en plus, les gens qui s'en méfient sont montrés du doigt comme des paranoïaques. Vous voyez ? Donc c'est ça aussi qu'il faut inverser. C'est les paranoïaques, c'est ceux qui nous surveillent alors qu'on n'a rien à se reprocher, alors qu'on est a priori, on n'a pas à être surveillé par défaut. Et donc à chaque fois, on inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui violent la loi en nous surveillant alors que c'est illégal. Donc c'est nous qui sommes mis finalement, on est coupable de s'interroger, on est coupable de poser des questions, on est coupable de ne pas vouloir être surveillé. Vous voyez, Et donc le Google participe à tout ça, quoi. Même si ça peut être, comment dire, indolore. Je le répète, ça tue personne d'afficher une publicité. Mais n'empêche que c'est quand même l'utilisation complètement abusive et illégale d'une donnée personnelle. Voilà. Envoyer un mail à quelqu'un, même si c'est pour dire salut, c'est ma vie privée. Et ça n'a pas à être scanné par une machine qui va s'en servir pour faire autre chose. Voilà. Point barre.
C'est extraordinaire. Ils nous ont concocté une dernière loi sur les archives où, au nom de la vie privée, il y a une catégorie d'archives qui est incommunicable à jamais, ce qui ne s'est jamais vu. Même les anciens pays communistes n'avaient jamais eu cette idée-là d'aller jusque-là. Nous, on l'a eu. Ce paragraphe n'a pas été changé. Hein, il est resté. Et tout ça au nom de la vie privée, alors que précisément, tous les jours, elle est remise en cause par ce système-là. Donc, c'est juste une réflexion que je veux faire à propos de la loi Guesso. Non, c'est comme ça. Juste, je voulais vous dire, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur la loi Guesso. Le problème maintenant, c'était que la retirer, comme certains l'ont demandé, au nom de la liberté de l'histoire, ça c'était grave, ça signifiait quelque chose. À partir du moment où elle a été là, bon, tout bien sûr, fait, mais la retirer, ça avait du sens.
Ah oui, oui, ça aurait un sens très, très nauséabond, très désagréable.
Voilà, c'est la raison pour laquelle il y a eu deux pétitions et la liberté pour l'histoire demandait à ce qu'on retire toutes les lois, y compris la loi Guesso, et on pouvait contester.
C'est vrai que c'est symboliquement très, très... Même si eux sont absolument insusceptibles, évidemment, de racisme, et ce sont des historiens tout à fait sérieux. Hein. Mais en revanche, c'est vrai que ce n'est pas anodin de retirer cette loi, de même que ce n'était pas anodin de la voter.
Je voulais faire une remarque sur Gmail. En fait, les dispositifs de traçage existent aussi et surtout sur les moteurs de recherche. Et là, pour tous les moteurs de recherche, pour le coup. Hein, toutes les recherches sont tracés, sont associés, alors pas à une personne individuellement, mais potentiellement oui. Enfin, il y avait eu, il y a peut-être une dizaine d'années, un bug chez Yahoo où on avait réussi, enfin, les informations avaient été publiées par erreur, à associer à des ordinateurs certaines recherches. Et des millions de recherches, hein, parce que là, on est sur des grands nombres et sur des choses. Voilà. Donc, les moteurs de recherche tracent systématiquement et historisent. Alors, vous avez des moyens d'éviter ça. Les navigateurs modernes vous permettent aussi des choses. Mais là, il y a vraiment une pratique de masse. Alors que bon, chez Gmail, il faut y aller, il faut s'inscrire. Bon, mais tout le monde fait des recherches et très peu de gens pensent à prendre les moyens qu'il faut pour justement empêcher le traçage de leur recherche. Et il y a un côté pratique aussi. Hein, ça existe aussi sur les sites commerciaux où quand vous retournez, si vous avez acheté un livre à la FNAC, quand vous y retournez, on vous dit « Ah, vous avez acheté ce livre-là, il y a peut-être celui-ci qui pourrait vous intéresser. »
Bref, sortez couvert sur Internet aussi.
Pardon. Les moyens, il y a certains navigateurs permettent justement de limiter les informations qui passent. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a des moyens. Mais c'est relativement limité tout de même. Quoi.
Juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, justement sur les conséquences que ça peut avoir, ce genre d'utilisation qui fragmente l'individu en petites boîtes en fonction de ses recherches précédentes, etc. Bah, pour renvoyer un petit peu au thème du colloque, et là, pas à Foucault, mais à Deleuze, qui a théorisé tout ça dans le post-scriptum sur les sociétés de contrôle. C'est vrai que quand on lisait ça il y a quelques années, on ne se rendait pas bien compte que ça pouvait être la notion d'individuel chez Deleuze, hein, c'est-à-dire cette façon de concevoir l'individu comme une fragmentation, hein, donc, et pas comme une unité, une ipséité, mais quelque chose qui est complètement morcelé, fragmenté. On pouvait avoir du mal à le concevoir abstraitement. On n'a plus aucun mal avec toutes ces techniques à concevoir ce que ça produit. Ça, c'est évident, on le vit tous les jours. Tous les jours, notre unité, notre entité individuelle est mise en péril et ça peut avoir des conséquences psychiques et sociales, bien évidemment, dramatiques. Et ça commence à être théorisé, ça aussi.
Je fais souvent une analogie qui n'est peut-être pas très bien comprise, mais par exemple, je crois qu'il est interdit de vendre ses organes. C'est-à-dire de vendre une partie de son corps, même à la science, où on ne peut pas vendre son sang, par exemple. Et pourtant, tous les jours, on nous incite à vendre une partie de nous-mêmes en numérique, quelque part. Et même des fois, on ne sait même pas qu'on le vend. Mais c'est vrai que quand on accède à Google, à Gmail gratuitement, même inconsciemment, il faut savoir qu'on vend une partie de nous-mêmes contre ce service soi-disant gratuit. Donc là aussi, il faut avoir conscience de ça, c'est que c'est vachement choquant de dire « ouais, je vais vendre un organe où je me suis fait piquer mon organe, où il y a des trafics d'organes », mais quelque part, l'intégrité physique, aujourd'hui dans notre monde numérisé, c'est aussi nos données personnelles, c'est aussi nos traces électroniques qu'on laisse à droite à gauche. Et donc, en prendre conscience, c'est aussi un moyen de nous protéger, et de protéger nos enfants, et donc d'en parler, et de la conscience de tout ça, ça mettra des années à ce que ça soit vraiment acquise. Et donc, il ne faut pas perdre de vue que oui, notre corps, même si c'est du virtuel, eh bien non, c'est pas du virtuel. Le mot virtuel m'horripile, parce que justement, on est trop pris à défaut, et quelque part, oui, mais c'est rien, ce n'est que de l'immatériel. Alors c'est peut-être de l'immatériel, mais c'est pas virtuel, c'est vraiment une partie de nous-mêmes qui est disséminée et qui est exploitée par des marchands, et qui donc continueront à nous vendre des systèmes soi-disant gratuits, alors qu'en fait, on le paye d'une autre manière. Voilà.
Une dernière question, puis on passe à la session suivante. OK. Donc, Jérôme et Jean-Pierre, pour nous parler de l'initiative militante des Big Brother Awards et des Césars de la surveillance et du contrôle social.
Alors, pour éviter de passer un long moment à vous expliquer ce qu'on fait, on va peut-être vous passer Donc un petit film de 10 minutes qui résume le palmarès des Big Brother Awards en 2008, c'était il y a 2 ans. Donc l'année dernière, on n'a pas fait ce florilège. C'est donc une sélection, je dirais, des meilleurs moments de la cérémonie. Et je pense que vous pourrez vous rendre compte un peu mieux de quoi il s'agit. On en parlera un petit peu après, avec, j'espère, pas mal de questions. Ouais, mais ça marche pas. Le son marche pas peut-être là. Il marche pas.